France Inter, le 7-10.
Claude, vous nous parlez d'un jeu.
Un jeu interactif auquel nous invite le site de l'équipe Génial, qui veut faire de chacun de nous le héros de l'histoire. Et quelle histoire ? Celle de la planète et du sport pris dans le réchauffement climatique. Alors vous voilà en 2050, invité à devenir le président d'un club de foot ou le directeur du Tour de France, ou peut-être champion de ski en réalité virtuelle ou d'escalade en salle si l'ambition vous a pris, après une exposition immersive qui recrée sous chapiteau, dans le froid artificiel, les glaciers disparus. On explore de clic en clic le futur inévitable. Le jeu était conçu d'après les scénarios du GIEC. On s'instruit ludiquement. Le Tour de France doit partir fin septembre et les étapes se disputent de nuit pour échapper aux fournaises. Mais même cela ne suffit pas. On installe des tunnels rafraîchissants sur le parcours du peloton. On végétalise les stades. Les pelouses sont détruites par des champignons qui, dans notre présent, ont déjà commencé à ronger nos stades. Y sommes-nous bientôt ? La même équipe, ce matin, me dit qu'en Arabie Saoudite, où il fait plus de 20, commence cette semaine une compétition de ski freestyle, sur neige, artificielle, abritée. Mais comment reprocher aux skieurs de prendre l'argent ? Oui, mes amis, nous y sommes. Libération, lui, s'alarme des ours polaires que l'évolution a fait dépendant des protéines et matières grasses des mammifères marins. Mais avec le réchauffement, comment chasser le phoque ? Alors les ours maigrissent, affamés, ils n'ont pas de chemin de retour pour désévoluer. À notre échelle encore tempérée, le courrier de l'Est, nous dit l'exaspération des maraîchers dont le travail est ruiné par les pluies continuelles depuis octobre. La Voix du Nord nous dit la fatigue des villageois du Montreuilois, à nouveau inondés par une rivière. Presse Océan, enfin, nous décrit le Croisic, où l'on ressort les sacs de sable en prévision des grandes marées de mars.
On parle aussi d'influence.
Celle qu'exerce sur Marine Le Pen, longue enquête de Libération, des énarques banquiers magistrats aux fonctionnaires troublants qui se baptisent les Horace et dont le chef de file, l'eurodéputé André Rouget, passé de la droite à la droite extrême, se laisserait aller dans ses correspondances à l'apologie de la guerre de civilisation, citant Maurras ou paraphrasant la vieille devise des SS « Mon honneur s'appelle fidélité ». Autre influence, celle qu'exerce Tim Dunn, milliardaire du pétrole au Texas et chrétien convaincu, que raconte l'opinion d'un article du Wall Street Journal. Cet homme dépense des millions pour remodeler la politique de son État selon les principes de Donald Trump. Il a payé pour qu'on supprime les impôts fonciers, interdise l'avortement, restreigne la pilule du lendemain et fasse considérer comme criminels les médecins qui dispensent des soins de transition des genres à des personnes de moins de 26 ans. Le site du Monde, lui, nous décrit la guerre de trois hommes riches et blancs contre la discrimination positive, vieille politique visant à corriger les inégalités raciales. Contre elle, plaide, ferraille, tweet Edward Blum, militant conservateur, Bill Ackman, milliardaire d'un fonds d'investissement, et Elon Musk, qu'on ne présente pas, et qui chez lui, sur son réseau X, a proclamé que le programme Diversité, Équité, Inclusion désigne le racisme. C'est une bataille dantesque aux États-Unis. Les défenseurs de l'inclusion font valoir que celle-ci est bonne pour l'économie. C'est un argument pour les Américains. Le Monde encore, et le Figaro également, raconte comment la Palestine est devenue un sujet de la campagne présidentielle et fracture le camp démocrate, car le soutien de Joe Biden à Israël heurte des musulmans américains. Mais au-delà de la guerre, le Figaro veut nous montrer le pays qui change. Dans une petite ville industrielle, Amtramck, fief longtemps de l'immigration polonaise, devenue majoritairement musulmane par le jeu d'immigration. Le conseil municipal désormais est 100% masculin et les homosexuels locaux ont mal vécu que le maire, originaire du Yémen, veuille interdire les drapeaux LGBT. Nous, on avait soutenu les musulmans pour les appels à la prière. À quoi ressemblera demain ? Le Monde encore, site et journal encore en kiosque, nous dit ses ouvriers et ouvrières, surtout nord-coréens, nord-coréennes, que leur pays fournit aux usines chinoises de transformation de poissons, qui vivent dans un climat de peur, de coups, de menaces, d'agressions sexuelles. On insiste souvent sur le fait que si vous êtes prise en train de vous enfuir, vous serez tuée sans laisser de traces, témoigne une ouvrière, saisissant en quête d'un collectif nommé The Outlaw Ocean Project, que le Monde relaie. Le journalisme est parfois l'influence fragile de ceux qui ne sont rien.
Et on parle enfin, Claude, de boissons.
Et l'on s'autorise alors un peu d'évasion quand, par le Figaro, alors que nous arrive la Fashion Week de Paris, on apprend qu'autour des défilés, on sirote à Paris, oui, du champagne. À Copenhague, de la bière artisanale, mais parfois sans alcool. À Los Angeles, oh là, des infusions aux plantes, mais aussi, ouf, le mezcal margarita. Et à Milan, où l'on goûte le vin, chaque repas s'achève par une eau chaude de citron, le canarina, les temps changent. Dans l'Est républicain, j'apprends qu'à Lure, on va fêter le sapeur Camembert, mythique personnage de bande dessinée créé par le grand Christophe le 29 février 1844. Ça lui fait donc 44 années bissextiles. Enfin, j'en termine. Dans la Dépêche édition du Tarn, on rencontre une jeune femme à l'orée de sa gloire, car depuis 4 semaines, sa bouille de l'été dernier est un visage d'une mini-série nude sur Prime Video, où des adolescents affrontent les dangers des partages sur Internet des photos dénudées. Notre albigeoise joue une collégienne, fille d'agriculteur piégée par un pédocriminel. Elle tombe à pic cette série quand le cinéma est secoué de révélations sur les prédateurs et les déterminations de notre lycéenne d'Albi contrastent avec les fragilités des jeunes femmes autrefois abusées. Quand elle a postulé, elle avait 16 ans, elle en paraissait 13, elle en a 17 aujourd'hui. En terminale, elle fait du théâtre, elle veut poursuivre après le bac dans un cinéma engagé et destiné aux adolescents. Elle sait où elle va, cette ado. Mais surtout, le vieux lecteur que je suis s'épate du nom de scène choisi par notre actrice. Elle se fait appeler Nelly Gann, du nom d'un poète québécois mort sexagénaire en 41 après une vie difficile. C'est tout bête, dit-elle, elle avait appris par cœur en 6e un poète de lui dont j'ignorais tout. Je suis allée chercher sa tête, sa vie, ses mots. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à tout l'ennui que j'ai. Il n'était pas joyeux, contrairement à la môme qui relève son nom et dont j'ai appris, moi vieux, quelque chose ce matin.
Merci Claude pour cette revue de presse.